La crise la plus connue, c'est la chute d'une météorite géante qui a tué les dinosaures à la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, n'a pas du tout impacté les insectes. Alors, actuellement, ce que l'on constate, c'est que les populations d'insectes partout dans le monde sont en régression très grave à cause de nous.
Bienvenue sur la partie 2 de cette interview avec André Nel, spécialiste des fossiles d'insectes au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Si vous n'avez pas encore écouté la partie 1, n'hésitez pas à commencer par là. André Nel nous y propose une immersion dans la nature telle qu'elle existait à l'ère du Carbonifère. Et je lui demande s'il est vrai qu'il existait à cette époque des insectes géants. Dans cette seconde partie, André Nel nous livre ce que l'étude des insectes nous apprend sur notre monde actuel. Il tire la sonnette d'alarme quant à la disparition accélérée et inquiétante des insectes qui, jusqu'à aujourd'hui, s'étaient adaptés avec brio aux différentes crises de la biodiversité. Sa connaissance de l'histoire de la vie et de la Terre rend son point de vue sur l'écologie et sur l'être humain en tant qu'espèce particulièrement intéressant. Un épisode qui nous fait prendre conscience de l'urgence d'agir pour la biodiversité. Cette étude des fossiles, donc elle nous permet de mieux nous imaginer à quoi ressemblait le monde il y a des milliers d'années. Et est-ce qu'elle nous en apprend plus aussi sur les insectes d'aujourd'hui?
Alors, l'étude des fossiles a deux intérêts. D'abord, c'est parce qu'il faut penser que la majeure partie, l'écrasante majorité des organismes ayant vécu sur Terre sont fossilisés, sont morts. La durée de vie d'une espèce, c'est 5 millions d'années, au grand maximum. C'est une estimation, on ne sait pas exactement, mais on n'a pas d'espèce animale ou végétale qui serait plus vieille que 5 millions d'années. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 5 millions d'années, ils avaient des ancêtres, mais qui étaient différents. Donc, ça veut dire qu'en gros, tous les 5 millions d'années, vous avez un renouvellement complet des faunes et des flores. Alors, vous imaginez 1 100 000 espèces d'insectes actuelles. Il y a 5 millions d'années, c'était pareil. Il y a 10 millions d'années, c'était pareil. Il y a 15 millions d'années. Voilà. Alors, les insectes, ils remontent les premiers à 400 millions d'années. Donc, ça fait un certain nombre de faunes et de flores différentes. Donc, une immensité, des milliards d'espèces. Si on veut reconstituer les liens de parenté, c'est-à-dire la phylogénie et en gros l'histoire de la vie en se basant que sur les animaux actuels ou les plantes actuelles, c'est un peu comme si on lisait le dernier mot de la dernière ligne de la dernière page du bouquin. Et on veuille, comme voudrait, connaître tout ce qui s'est passé avant. Le fait est que ce dernier mot contient beaucoup d'informations. Mais il ne contient pas toute l'information. Donc, il est absolument nécessaire d'inclure les données fossiles, les données paléontologiques, dans les études de reconstruction de la biodiversité actuelle et passée. Il y a un autre aspect très important, et là, c'est important d'un point de vue sociétal et même pour notre survie, c'est de voir comment ont réagi les insectes aux grandes crises de la diversité. Alors, il y a eu plusieurs crises de la biodiversité dans le passé. On a compté 5 majeures. Il y en a eu une qui aurait impacté les insectes plus que les autres, c'est la crise de la fin du Permien. C'est la mère de toutes les crises dont je parlais tout à l'heure. Et les insectes ont été modérément impactés. La crise la plus connue, c'est la chute d'une météorite géante qui a tué les dinosaures, qui existent toujours sous forme d'oiseaux. À la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, n'a pas du tout impacté les insectes. Alors, actuellement, ce que l'on constate, c'est que les populations d'insectes partout dans le monde sont en régression très grave à cause de nous, à cause de nos pollutions, de nos destructions des milieux naturels. Alors, comment une espèce disparaît? Ça ne se fait pas comme ça. D'abord, elle se raréfie, puis elle disparaît. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un, et puis après, il n'y en a plus. Donc, si on considère que les populations d'insectes de toutes les espèces sont en train de régresser actuellement, ça veut dire qu'on est en train de faire disparaître le groupe qui a le mieux survécu à toutes les crises de la biodiversité. La crise que l'on provoque, nous, la sixième extinction, comme on dit souvent, elle est probablement plus grave que celle de la fin du Permien. Il y a de quoi s'inquiéter.
Oui. Justement, donc cette étude, elle permet aussi d'anticiper peut-être les transformations des insectes à l'avenir, mais c'est vrai que si on les amène à leur extinction, ça ne sera pas possible. Donc.
Alors, d'autant plus que les insectes, étant présents partout dans tous les écosystèmes, dans tous les milieux naturels terrestres, enfin continentaux, un petit peu dans les mers, mais pas beaucoup, ce sont des organismes très importants dans ce qu'on appelle des chaînes trophiques, c'est-à-dire des chaînes alimentaires en gros. Je mange quelqu'un et je suis mangé par quelqu'un. Donc, ils permettent la survie de beaucoup d'animaux et ils permettent à la nôtre de survie parce que beaucoup d'insectes sont des pollinisateurs. Donc, ils pollinisent et ils permettent le développement des fruits d'énormément de plantes qui servent à l'alimentation humaine. Donc, si on fait disparaître ces insectes, nous-mêmes, on va avoir un gros problème alimentaire dans les décennies qui viennent.
Donc c'est super important de rappeler, autant les insectes géants, c'est presque un mythe, mais en tout cas, oui, la disparition des insectes qui est en train de se passer en ce moment, c'est pas du tout un mythe. Et c'est vraiment
c'est très, c'est très, très réel. C'est très, très réel. Et là, il y a. Et je parle de dizaines d'années, pas beaucoup. Pas beaucoup plus. Il y a des phénomènes qu'on nous annonçait pour la fin de ce siècle et qui commencent franchement à être bien visibles actuellement, hein, comme les changements climatiques. Eh bien, c'est la même chose pour la sixième extinction. Ça commence à être vraiment bien visible. Et plus vite que ce qu'on avait estimé, ce que les chercheurs avaient estimé il y a quelques années.
Si ça continue comme ça, il reste combien de temps pour les insectes encore?
C'est difficile à estimer. Le problème, c'est les écosystèmes qui s'effondrent. Vous avez des animaux qui sont des animaux sous-clés ou des plantes clés de l'écosystème, d'un milieu naturel. Si vous les faites disparaître, c'est tout l'ensemble qui s'effondre. Et finalement, c'est remplacé par autre chose, mais beaucoup plus pauvre, beaucoup moins complexe et beaucoup moins intéressant pour nous. Il y a des plantes, en plus, il y a des plantes qui survivent parce qu'elles sont en interaction avec les insectes, et ces plantes peuvent être porteuses de produits qui pourraient servir à lutter contre les cancers, contre des maladies, ainsi de suite, à l'alimentation, des potentiels importants et qui disparaissent pratiquement avant même qu'on se rende compte qu'ils sont intéressants. Ça se passe surtout dans les forêts denses, encore une fois. Dans les forêts vertes des zones équatoriales. C'est une catastrophe. Ça se passe à grande vitesse.
Ouais, la nature vous nous veut du bien en plus, donc ce n'est pas que la perte de choses très diverses et magnifiques, c'est aussi des choses qui nous menacent directement.
Ah oui, on est menacé directement, oui, bien sûr. On fait partie de la nature, on fait partie de ce monde, on n'est pas en dehors. Il faut que l'humanité s'arrête de penser qu'elle est détachée des écosystèmes qui l'entourent. Mmh. On y est intimement lié. D'ailleurs, le virus, la Covid, nous le rappelle.
C'est une leçon d'humilité.
C'est des leçons, à savoir si on les écoutera et qu'on les suivra.
En parlant de leçons aussi, quand on voit que les insectes quand même sont apparus il y a si longtemps, on peut se dire qu'on a peut-être des leçons à en tirer parce que nous-mêmes, on est en train de s'autodétruire. Et justement, qu'est-ce qui a aidé les insectes à traverser autant de périodes?
Alors, ce qui a aidé les insectes à traverser énormément de périodes, ça a été d'abord parce qu'au début, ça a été une question d'échelle, c'est-à-dire que c'était de tout petits animaux qui pouvaient profiter, donc échapper aux prédateurs parce qu'étant très très petits, et puis profiter de plein de ressources nouvelles, comme les premières plantes, les premières forêts à la fin du Dévonien. Ensuite, ce qui les a visiblement favorisés, c'est les ailes, le vol. C'était les premiers animaux à pouvoir voler. Et donc, lorsque vous savez voler, eh bien, vous échappez plus facilement au prédateur qui va claquer du bec devant vous. Vous échappez à des catastrophes parce que vous allez vous réfugier plus loin. Si la forêt flambe, vous envolez et vous allez plus loin. Vous pouvez conquérir de nouveaux milieux, passer le fleuve, la rivière, le lac, le bras de mer, et donc conquérir d'autres endroits. Vous pouvez même dans votre forêt arriver plus facilement dans la canopée où il y a la lumière et plus de ressources. Donc ça a permis leur diversification importante. Par la suite, les groupes d'insectes se sont diversifiés, je dirais, un peu les uns après les autres. C'est-à-dire qu'au Permien, on avait les sortoptères, les sauterelles, qui étaient extrêmement diverses. Ils ont été supplantés après, au Mésozoïque, donc après le Permien, autour des 200-230 millions d'années, puis plus récemment, par les holométaboles, donc surtout les coléoptères, les scarabées, les guêpes, les mouches, puis après les papillons, parce que ceux-là ont eu la capacité d'énormément se diversifier et de conquérir de nouvelles ressources alimentaires. Vous avez du moment qu'il y a quelque chose à manger, vous avez un scarabée qui le mange. Mmh. Et puis, le fait d'avoir un stade de chrysalide, c'est-à-dire donc œuf, chenille, la chrysalide qui dort, et puis l'adulte, ça vous permet éventuellement d'échapper à une période de sécheresse chronique qui revient régulièrement ou à des périodes de froid qui reviennent régulièrement. Des périodes non favorables où il n'y a rien à manger. Tandis que si vous êtes un animal comme une punaise ou une sauterelle qui a l'œuf et puis les nymphes successives qui grandissent et qui muent, mais qui sont tout le temps actives et qui doivent tout le temps manger, eh bien, si à un moment, une période de disette, eh bien, la population s'effondre. En même temps, par contre, en parallèle, un coléoptère qui va être en train de dormir dans sa chrysalide au même temps, eh bien, lui, il échappe à ça. Donc, ça permet de survivre. Et puis, la diversification, après, alors, ça a été une conquête de tout ce qui est possible à manger. En gros, actuellement, du moment qu'il y a quelque chose à manger sur Terre, enfin sur les zones continentales, vous êtes sûr qu'il y a un insecte qui peut le faire, qui s'est spécialisé pour ça. Y compris la capacité de manger des plantes empoisonnées, la capacité de se nourrir sur le pollen et le nectar des fleurs. Alors ça s'est produit avec l'explosion des angiospermes, c'est-à-dire des plantes à fleurs, la majorité des plantes actuelles, au milieu du Crétacé, il y a 5 millions d'années. Et donc là, tous les animaux, tous les insectes qui étaient capables, se sont spécialisés dans le nectar et le pollen des fleurs, eh bien, ils se sont hyper développés, comme les papillons, les abeilles, les fourmis, ainsi de suite. Ensuite, il y a les diverses méthodes de protection, dont en particulier la vie dans les milieux cryptiques. Alors ça, ce sont cryptiques, c'est-à-dire cachés, dans des nids. Et là, ce sont les eusociaux, c'est-à-dire les fourmis, les guêpes, les abeilles, les termites, qui ont pu se diversifier. Il faut penser qu'actuellement, dans les zones intertropicales, des animaux clés des zones intertropicales, ce sont les fourmis et les termites. Dans le recyclage de la nourriture, le recyclage des ressources, dans les limitations des ravageurs, ainsi de suite. Donc une forêt en bon état, c'est une forêt qui a des termites et qui a des fourmis en zone intertropicale. Tout ça a favorisé énormément les insectes, plus encore toujours la capacité à voler, donc qui permet d'aller ailleurs. Et ça, c'est tout le temps, au cours de l'histoire de la vie. Les insectes ont pu coloniser de nouveaux milieux, de nouveaux... Ils apparaissent par exemple en Asie, puis ils arrivent à coloniser, à passer Bering et à coloniser l'Amérique du Nord. Ou ils apparaissent en Amérique du Sud, et puis il y en a qui vont faire des migrations vers l'Amérique du Sud, à travers du proto-atlantique. Donc, voilà. Ce sont des avantages vraiment non négligeables.
Oui, donc leur secret, c'est à la fois leur physiologie et puis le fait qu'ils soient extrêmement adaptables.
Physiologie, une adaptabilité très importante. Ben, il faut penser que souvent, il y a au moins, la plupart du temps, vous avez une génération par an, ou plus, plusieurs générations par an, ce qui signifie que Ce sont des animaux qui peuvent, s'il y a des mutations qui apparaissent, elles peuvent se maintenir et se développer très vite. C'est un peu comme les virus, là. Le virus anglais qui est apparu en quelques mois. Vous pouvez imaginer les insectes comme étant des animaux qui sont capables de faire de la spéciation de nouvelles espèces très rapidement, en quelques centaines de générations, c'est-à-dire quelques milliers de générations, quelques milliers d'années, quelques dizaines de milliers d'années. Ce que nous, on ne sait pas faire, parce que, par exemple, les hominidés, notre famille, on a une génération tous les 15-20 ans. Donc, ça fait 4-5 générations par siècle. C'est beaucoup, beaucoup moins pour que des mutations apparaissent et puis qu'elles se développent. C'est beaucoup plus lent. On n'est pas dans les mêmes échelles de temps.
C'est ça aussi qui les rend très adaptables et très puissants à ce niveau-là.
Oui, oui. Mais de manière assez surprenante, et je pense que ça, c'est lié à l'aile et au vol. Par exemple, les araignées et les mille-pattes sont incomparablement moins diversifiées que les insectes. C'est probablement lié à la capacité de se déplacer et d'aller dans un nouveau milieu. On a des cas, par exemple, d'insectes qui sont arrivés sur les îles Hawaï et puis qui ont fait une hyperspéciation, c'est-à-dire une espèce est arrivée, un fondateur, et puis ensuite, ils se sont multipliés et diversifiés d'une manière extraordinaire, avec une hyperdiversité spécialement sur les îles Hawaï. Et ils sont arrivés sur les îles Hawaï en volant.
C'est impressionnant. Donc nous, c'est sûr qu'on n'a pas de prise, moins de prise en tout cas, que sur notre physiologie. On est quand même très adaptable. Et aussi, leur autre secret, ça a été la gestion de leurs ressources aussi, finalement. Et c'est peut-être ça aussi la leçon qu'on pourrait apprendre des insectes à notre échelle.
Ou la gestion des ressources chez les insectes, non, je pense que c'est comme tous les organismes, un organisme est très égoïste, hein, c'est-à-dire qu'en général, il va manger tout ce qu'il trouve, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à manger. Par contre, dans les écosystèmes, vous avez des équilibres fragiles et compliqués entre proies, prédateurs, parasitoïdes, parasites, qui fait que les populations de ravageurs, par exemple, si une espèce s'installe et ravage tout, eh bien, normalement, il existe des prédateurs et des parasites qui vont limiter les populations et rétablir l'équilibre. Donc, ça c'est général, c'est pas spécifique aux insectes. Bien qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de prédateurs et de parasites, effectivement, chez les insectes. Ouais. Énormément d'herbivores, mais beaucoup de prédateurs et de parasites. Nous, Sapiens, en fait, on a un gros problème, c'est qu'on n'a plus de prédateurs. on en avait il y a 10 000 ans, 20 000 ans. Actuellement, on n'en a plus. Alors, on se retrouve avec une espèce qui se multiplie de manière exponentielle, ce qui cause des problèmes, évidemment. À l'état naturel, il y a pratiquement pas de macro-organismes vertébrés ou autres qui aient des populations équivalentes à celles de Sapiens. Il n'y en a pas. On a conquis toute la planète, on est présent partout, on se déplace partout et on est hyper nombreux. Du point de vue naturel, c'est pratiquement une aberration, en fait. La situation de notre espèce actuellement est aberrante, du point de vue dans l'histoire de la vie.
Et pourtant, on aurait du mal à revenir en arrière. Donc c'est question de trouver l'équilibre dans ce déséquilibre, finalement.
En général, lorsqu'une espèce, l'histoire de la vie nous dit que lorsqu'une espèce se met à pulluler, soit ses ressources s'effondrent, et à ce moment-là, elle connaît des extinctions, enfin, des morts en masse, soit il apparaît des organismes qui vont la limiter d'une façon ou d'une autre. C'est systématique. On aurait de quoi s'inquiéter.
Oui, donc des scénarios passés permettent aussi d'imaginer le scénario qui peut s'appliquer à notre espèce.
Oui, il faut penser qu'on est la dernière, on est en fait, si on se place au niveau de la famille, c'est-à-dire des hominidés, il y a 50 000 ans, il y avait plusieurs espèces d'hominidés en Eurasie, en Europe et en Asie. et toutes ont disparu. Et il n'en reste plus qu'une. C'est-à-dire qu'en gros, d'un point de vue évolutif, on est une famille en voie d'extinction, puisqu'il n'y a plus qu'une seule espèce qui représente cette famille. C'est extrêmement inquiétant. Toutes les lignées pour lesquelles on n'a plus qu'une seule espèce existante sont des survivants, en fait. Au sens biologique et évolutif du terme. Nous, on est extrêmement nombreux, mais en fait, c'est tous les mêmes. Donc, c'est inquiétant. C'est là que des phénomènes comme le virus, la pandémie qu'on vit et les trois ou quatre pandémies qu'on a évitées de justesse dans ces dernières années sont extrêmement inquiétantes.
L'étude de la biologie, des sciences naturelles, ça permet aussi d'avoir un autre regard sur notre espèce et sur les événements qu'on vit aussi.
Oui, ce sont des sonnettes d'alarme.
Oui, tout à
Reste
fait.
à les entendre.
Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'était important de le rappeler et enfin, c'était vraiment intéressant de terminer par parler de la situation écologique, de la situation qui nous concerne aussi directement. Et puis, c'est vrai que l'étude de ces temps qui sont très difficiles à s'imaginer, c'est vraiment fascinant. Donc, merci de nous avoir permis cette plongée dans l'ère du Carbonifère. Et n'oublions pas, en effet, qu'on a une responsabilité à jouer en ce moment même avec les insectes.
Merci à vous.
C'est terminé pour cette interview en deux parties. J'espère que ce format vous a plu et surtout qu'il vous a appris plein de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Apple Podcasts avec un petit commentaire et 5 étoiles. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, @mandibulopluriel.podcast, pour en savoir plus sur les invités et sur les épisodes à venir. Continuez d'être curieux et à parler des insectes autour de vous, et je vous dis à jeudi prochain pour un prochain épisode.